Vous écoutez
RMC.
Studio à Doha, il est 22h19, Aris Orangis, messieurs dames, sachez-le, donc en France. Et l'équipe de France est au programme maintenant. Les gars, on va pas faire trois points, hein. Le match était il y a maintenant plus de deux heures. Enfin, tout de même, on a vu aujourd'hui, Daniel, une belle équipe de France.
Ah, plus que ça, je vais même te dire, et tiens-toi bien, je l'ai dit à la fin de la première période, donc je me suis un petit peu avancé quand même, sans attendre la fin du match. Depuis en compétition, hein. Mais écoute, je crois que depuis 2006 et le match contre le Brésil, l'équipe de France ne m'a pas autant autant fait vibrer, autant séduite. Ouais, ouais, bien sûr. En termes de jeu, de ce que tu proposes sur le terrain, de l'enthousiasme que tu mets, de la façon de jouer, parce qu'il y a aussi une façon de jouer qui moi me plaît plus, parce que moi la victoire où t'attends, bah, par exemple en 2018, il y a pas la moitié d'un match, je dis bien la moitié d'un match qui m'a plu autant que celui de ce soir. Parce que j'aime pas quand t'attends, quand tu joues simplement en essayant de jouer la transition ou en contre, où les blocs étaient trop bas, ça me plaisait pas. Là, la prestation de ce soir, je la trouve parfaitement aboutie. Le match nul, si Mbappé avait pas mis le deuxième but, franchement, ça m'aurait semblé assez injuste. Clairement, en termes de prestation footballistique, depuis 2006, je suis pas sûr d'avoir vu un match aussi abouti des Bleus. Voilà.
Lionel? T'es d'accord?
Ouais, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Enfin, pas pour, pas seulement pour ce soir, mais ça fait deux matchs où la France maîtrise. Ça fait longtemps que j'avais pas vu la France maîtriser comme ça. Et non seulement ils maîtrisent, mais ils maîtrisent en faisant du jeu. Comme exactement. Disait Daniel, je suis d'accord. Et maîtriser en faisant le jeu, c'est.
Franchement, on était plus habitué à ça, hein. On avait oublié des bleus où ça court, où ça monte sur les côtés, où ça presse, où il y a du mouvement, où tu vois au milieu de terrain un mec, en l'occurrence Griezmann, mais j'imagine qu'on va beaucoup en parler, qui distribue du jeu à droite, à gauche, des attaquants qui tentent des dribbles, et là il y en avait des deux côtés, Dembélé, Mbappé. Non, je suis désolé, une équipe de France aussi attractive, moi j'avais quasiment
beaucoup de complémentarité.
Bah, en fait, depuis la création de l'After, tout simplement.
Ouais,
un soir. Aussi satisfait de ce que je vois des Bleus en termes de jeu, ça ne m'était pas arrivé, tout simplement.
Après, voilà. Il y avait, c'est une autre image de l'équipe de France qui, toi, dans ta conception de jeu, te plaît plus. Mais quand la France jouait en bloc bas et puis allait faire des contre-attaques pour devenir championne du monde comme elle l'a fait et comme elle a pris, par exemple, l'Argentine et tout ça, moi, ça me plaît aussi. Je dis pas que avec
le match contre l'Argentine, il est effectivement très intéressant parce que le scénar est un peu fou, il y a beaucoup de buts.
C'était maîtrisé.
Et tout ça. Mais
ouais.
En termes de, ah non, alors, bah, ah, moi,
pour
je
moi c'était
que,
maîtrisé.
Je trouve pas que ce soit
c'était
maîtrisé.
C'était le plan de jeu et ça a été bien fait. Ouais, mais c'est dans un autre registre. Mais heureusement, là où je suis d'accord avec toi, heureusement qu'on n'a pas ce style de jeu aujourd'hui avec l'effectif que Didier a, avec tous ses offensifs, avec tout ça. Donc là, non, c'est cohérent par rapport aux personnes à tous ces joueurs qui composent cette sélection.
Non, parce que contre l'Argentine, le match auquel tu fais référence, ça se joue en fait sur la vitesse de Mbappé. C'est je balance une sacoche devant et puis Mbappé fait la différence. Alors oui, ça donnait un match qui était un peu spectaculaire.
Et un tir improbable de Pavard.
Mais je suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait que ce match-là était maîtrisé. Mais bref, peu importe. Moi, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. J'ai vraiment, je comprends ce qu'ils font. Je vois des joueurs tous bons. Même ceux qui sont un peu en dedans, j'arrive à comprendre pourquoi ils sont un peu en dedans, parce que j'imagine qu'ils sont là pour un peu regarder, compenser, boucher des trous. C'est vrai que Tchouaméni ne fait pas grand chose dans la participation au jeu, il prend pas de risques sur les passes.
Mais là-dessus, je suis pas d'accord, tu vois.
Mais là-dessus,
j'ai entendu ça aussi et moi, je suis pas d'accord.
C'est-à-dire.
Il a fait beaucoup de jeux sans ballon. Il a
C'est ce que j'étais en train de dire, Lionel.
Non, mais quand je te
c'est ce que j'étais en train de dire. Tu me coupes, tu me sautes dessus. C'est ce que j'étais en train de dire.
Non mais
c'est quand même incroyable. Tu me laisses pas parler.
Attends, t'énerves pas.
Bah non, c'est lui. Ouais, il me dit, je suis pas d'accord. Bah tu m'as pas laissé finir la phrase et j'allais dire ça justement.
Alors, j'allais dire que justement. Tu me sautes dessus et j'ai pas fini. Je suis pas d'accord.
Lui quand même.
Avec c'est lui qui a raison. C'est toi qui l'as sauté dessus. Laisse-le finir.
Je ne suis pas d'accord avec certaines analyses qu'il y a eu avant que tu parles. Parce que.
Quelles étaient les analyses, Lionel?
Eh ben, que Tchouaméni est passé complètement à travers, qu'il n'a pas été bon et tout ça.
Non,
et ça, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Mmh. Si, mais c'est pas ce que dit Daniel, hein. Je suis d'accord avec toi, Daniel.
Tu en fait, vous là-dessus. Engueulez quand vous êtes d'accord. C'est quand même magique. C'est
disons qu'il m'engueule, il m'engueule là-dessus, mais je suis d'accord avec Daniel parce que j'ai entendu des mecs de renom qui disaient que Tchouaméni avait
des mecs de renom. Bah, j'adore l'expression, oui. Lionel, des mecs de renom.
Bah, oui,
c'est
oui,
qui les mecs de renom?
Ça m'embête d'entendre ça parce que t'es pas obligé de faire du jeu, de créer le jeu et tout ça. Quand t'es numéro 6, faire des courses sans ballon pour empêcher l'adversaire de jouer, être destructeur, même si tu touches pas la balle, mais empêcher ton adversaire de jouer sur ses attaquants et tout ça, le mec, effectivement, tu ne le vois pas, mais par contre, il fait un travail extraordinaire.
Tous les mecs sont pas obligés de faire rêver, quoi. Et là, c'est vrai que Tchouaméni fait pas rêver, mais je comprends.
Pas obligé de les voir.
Je comprends son utilité de ce que font les Bleus. Comme je vois que Rabiot a fait encore une demi-heure de malade incroyable, et puis qu'après, effectivement, sur la deuxième mi-temps, il est toujours un petit peu moins bien, mais enfin, c'est par rapport à ce qu'il propose, c'est presque normal parce qu'il est tellement haut au début qu'il redescend, mais enfin, il fait encore partie des meilleurs ce soir. Et après ça, une fois que t'as dit ça, tous les autres, Griezmann superstar.
Mbappé qui sauve son match avec ses deux buts.
Il sauve son match, il est tout le temps bon. Mbappé, le danger.
Sa première mi-temps, pour moi, j'ai pas aimé sa première mi-temps.
Le danger vient par lui. À chaque fois, il monopolise l'attention. Il accélère, oui, mais il est quand même bon. Tu sais qu'à un moment ou un autre, il va se passer quelque chose.
Ah, mais d'accord, mais en première mi-temps, pour moi, il est passé à côté.
Faisons dossier par dossier. On va ouvrir le dossier Griezmann dans quelques instants.
Il passe pas à côté, mais 4 buts par match, le mec.
Mais écoutez justement Didier Deschamps qui parle de Mbappé. Donc Deschamps sur Mbappé tout de suite.
Kylian, c'est un joueur hors norme. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions où il a été pas mal maltraité, mais le fait d'avoir d'autres joueurs autour de lui aussi qui amènent du danger lui permettent d'être un peu plus libéré. Puis au-delà de ses énormes qualités au-dessus, bien sûr, hors normes, il s'inscrit dans un collectif, il fait beaucoup d'efforts, il s'est fixé cet objectif de la Coupe du Monde et l'équipe de France a et aura besoin d'un très bon Kylian.
Je suis d'accord avec Deschamps.
Si on veut chipoter... il a une belle passe en retrait de Dembélé en première mi-temps, il la met au-dessus.
Arrêtez de chipoter, c'est
et on peut chipoter la petite ou il peut la donner à Thuram à la fin.
Arrêtez de chipoter, on peut pas tout. Les gars, mais arrêtez
on
de
peut chipoter.
Mais non, tu peux pas chipoter parce
pourquoi
que
si j'ai envie de chipoter.
Mais parce que si tu chipotes, ça veut dire qu'il y a 5-0 à tous les matchs. Le football, c'est pas 5-0 tous les matchs.
Et pourquoi pas?
T'es obligé de rater des trucs de temps en temps.
Mais non, Daniel.
Ah non, mais arrêtez, vous pouvez pas chipoter tout le temps.
On parle des meilleurs joueurs du monde.
Mais non, mais ça rime à rien.
Chipotons.
Non, tu joues pas tout seul sur le terrain. T'es pas au parc avec ton fils là.
Lionel, tu sais quoi, t'es pas toi?
Non,
Mbappé, peut-être en première mi-temps, il est un peu moins bien, mais les mecs se fatiguent. Et après, il profite de la fatigue, il se crée les espaces et il défonce tout le monde. Arrêtez de chipoter, Lionel.
Ouais, mais alors, t'arrives à chipoter avec Neymar, mais tu chipotes pas avec Mbappé.
Mais quand j'ai chipoté avec Neymar? De quoi? Par rapport à quoi?
Neymar, il te fait la même là avec Thuram, il la donne pas, tu vas chipoter, hein. Je te connais.
Mais ça dépend le contexte du match.
S'il met un triplé avant, je pense qu'il lui dit rien.
Mais pas du tout. Attends, mais non, mais me fais pas.
Je pense qu'il a été beaucoup plus influent, comme tu le disais, parce que c'est un mec pour marquer des buts dans le jeu et notamment sur le score et sur le dénouement, beaucoup plus influent en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps.
Ah ouais, les mecs se fatiguent. Il leur met tellement le feu tout le temps. Un match c'est 90 minutes. Moi s'il met un doublé à chaque match, il peut être mauvais pendant 45 minutes. Qu'est-ce que ça peut foutre?
Oui,
qu'est-ce que ça peut faire? Mais le mec, s'il est bon de la première à la 90e, il met un quadruplé par match.
Oui, mais toi, Daniel,
c'est quand même bizarre.
C'est bizarre ce que vous dites.
Dans sa vie, Mbappé n'a pas marqué qu'en deuxième mi-temps. Il lui est arrivé de faire la première accélération, il met un but.
Ok, donc toi, tu veux qu'il mette 4 buts par match. 4 buts par match, c'est content.
Mais non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est pas ce que je dis.
Daniel,
mais
pourquoi pas?
On a le droit.
S'il a la capacité de le faire.
Je l'ai trouvé moins influent qu'en première mi-temps qu'en deuxième. Voilà,
mais
c'est
bon,
tout.
Il a tout. Mais là où je rejoins Daniel,
il était très bon.
Je vais voir si je peux passer un coup de fil à la FIFA, voir s'ils peuvent pas nous filer la Coupe du Monde dès maintenant, que j'en arrête de se faire chier à regarder les matchs. Parce que visiblement, il faut tous les gagner 5-0. Parce qu'il faut chipoter. Bon, bah voilà. On va voir s'ils veulent pas nous la filer maintenant, la Coupe.
Allez, on va accueillir
Tony. Parce
qu'un
match, c'est pas 90 minutes, toi.
On va accueillir Tony pour ouvrir le dossier Griezmann. Tony, bonsoir.
Salut les gars, salut Lionel.
Et Tony. Salut Tony.
Et Gilbert. Bon, juste un petit mot vraiment pour vous remercier pour toute l'éducation footballistique que fait l'After et surtout la 100% transparence dans toutes les infos que vous donnez. C'est vraiment un régal, donc merci pour ça.
Merci Tony.
Merci Tony.
Ceci étant dit, moi j'aimerais faire l'apologie, vraiment je pèse mes mots, et mettre l'accent sur ce joueur fantastique qui est Antoine Griezmann, qui a été souvent décrié, parfois un petit peu à raison, c'est vrai, dans ses coups de mou. Mais depuis 2014, c'est bel et bien lui le taulier.
C'est vrai.
Et ce match qu'il fait ce soir, je trouve qu'il est extrêmement symbolique parce qu'il change un petit peu de rôle. Il est d'une intelligence très rare chez les joueurs de foot. Il a une vision foot et un QI foot. Je sais que Daniel, toi, souvent, tu mets cet aspect du jeu là en avant qui permet de faire souvent des passes en une touche, des passes en appui. Il sent le jeu, il se fait oublier et je trouve que ça crée vraiment du lien à cette équipe qui parfois est un petit peu en déficit de cohésion collective pour la création du jeu et je pense que vraiment merci à Antoine parce que si on
mais
va jouer
vois, Tony,
dans cette Coupe du Monde encore une fois ça sera grâce en grande partie à lui.
C'est là qu'on voit que le foot de compétition internationale où tout est ramassé sur un mois avec un match tous les trois jours, c'est quelque chose de quand même très particulier parce que j'ai du mal à me souvenir de la dernière bonne saison d'Antoine Griezmann en club. Ça date maintenant vraiment. Objectivement, dans le football de club, son apex est passé depuis longtemps. Mais la faculté qu'il a à chaque fois en équipe nationale, parce que c'est rare qu'il passe au travers quand même, là, dans ce mondial, après encore la saison qui passe, ou limite, plus tellement. Enfin, franchement, les matchs qu'il fait sont très ternes avec l'Atlético, un club qui est en plus en perte de vitesse. Lui voir sortir un match comme il a fait aujourd'hui, c'est incroyable. Tout ce que tu as dit, évidemment, je valide. Son orientation du jeu, son intelligence, tout ce qu'il fait, il donne quand il faut donner.
Ses compensations aussi, défensives.
Tout son jeu défensif.
Première mi-temps, je sais pas, tu l'as vu, Daniel, en première mi-temps,
tout,
là où
tout,
on a
fait,
un déséquilibre de côté droit. Et c'est lui qui vient tacler alors que Tchouaméni était pas là et il y avait plus non plus Koundé qui était pas là non plus. C'est lui qui vient tacler, qui fait le truc. C'est-à-dire que le mec, il a anticipé la perte de balles, il a fait sa course avant la passe de l'adversaire pour pouvoir anticiper. Il avait deux temps d'avance sur un geste défensif. Offensif, on a l'habitude.
Il a le sens du sacrifice, Lionel. Vraiment le sens du sacrifice.
Bien sûr.
Et puis,
il l'a gardé.
On parle pas aussi de sa qualité de pied, que ce soit sur des passes décisives ou des coups de pied arrêtés. On fait très mal ce coup de pied arrêté parce que ce soir encore, on peut marquer à travers Rabiot, Varane. Il y a plusieurs centres et à chaque fois c'est lui qui est dans le coup.
Et il faut absolument que ce soit lui qui les tire, les coups de pied arrêtés maintenant. Il faut que ce soit lui.
Et à ce propos, je ne sais pas si vous avez eu l'info, mais.
Ça, il va falloir qu'il s'explique avec Mbappé alors parce que.
Non, mais voilà, on regarde aujourd'hui les agents. Mbappé a lâché le truc, c'est bon maintenant.
Et pour les pénalties, déjà il avait tapé en touche, mais j'ose espérer que ce soit Griezmann qui les tire. Mais
non, les pénalties, oublie, ce sera Mbappé. Alors là.
Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr.
Ouais, ben c'est bien dommage. En tout cas, bon, dans un monde où maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de générations de supporters de foot qui pensent un petit peu trop joueurs FIFA avec des caractéristiques soit de technique folle, soit de vitesse, soit de vivacité. Je trouve que Griezmann, il dénote dans tous ces secteurs de jeu, mais par contre, il a une espèce de vista dans ce pied et je trouve qu'il est quand même assez sur le côté.
Le deuxième but, Tony, il est extraordinaire. Il dézone alors qu'il est resté très souvent dans l'axe. Il dézone complètement. Il va sur le côté droit et il la dépose sur. Il la met dans un endroit où Smashel ne peut pas intervenir et c'est Mbappé qui vient comme ça la mettre de la cuisse ou. Mais il lui dépose. Il a une main et puis il a anticipé la course de Mbappé, l'angle et tout ça. Non, franchement, je suis d'accord avec toi. Et là, la palette, elle est vraiment très très large de Griezmann.
Il se met chiffon tous les matchs, c'est impressionnant. Lui, s'il y en a bien qui mouille le maillot, c'est vraiment impressionnant à ce niveau-là. Le mec, il est jamais décevant, même si parfois c'est vrai qu'il est un peu en manque d'inspiration, mais son jeu est tellement basé sur de l'inspiration que c'est vrai que parfois il peut avoir des sorts un peu moins inspirés, mais putain, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un mec qui dans l'état d'esprit en tout cas est vraiment.
Allons un peu plus loin maintenant. Sur ce positionnement qui se confirme sans doute définitivement pour le reste de la Coupe du Monde, est-ce qu'on doit dire bravo Didier Deschamps, ou alors est-ce que c'est un truc en fait qui est venu un peu naturellement, que Deschamps a accompagné, enfin comment est-ce que vous voyez
il est milieu depuis longtemps maintenant. Est-ce qu'en 2018 il est attaquant? À quel moment il est attaquant? Il y a deux attaquants qui sont Jérôme Mbappé et déjà à ce moment-là Griezmann est une sorte de numéro 10.
Mais il y a une évolution,
Il est pas sur le côté. Alors il y a une évolution. T'as raison Lionel. Effectivement.
Autour de lui. Et je pense que Dédé a dû réviser sa copie par rapport à ça.
Là si on voit ça, ce que Kevin Diaz appellerait ça heat map, on verrait qu'il va un peu partout. Il va sur les côtés. Il revient bas.
Il est clairement une sorte de numéro 10 libre. Effectivement, il est à plein d'endroits du terrain et son positionnement et l'impression qu'on a de son positionnement, n'oubliez pas aussi qu'elle est due à un schéma tactique qu'on n'avait jamais vu avec Deschamps.
Voilà, donc il y a une adaptation de Dédé.
À savoir trois attaquants devant lui. Il y a beaucoup, reprenez tous les matchs des Bleus, il y a beaucoup plus de joueurs aujourd'hui devant le ballon qu'il y a 4 ans. Il y a beaucoup plus de solutions pour jouer devant pour les joueurs. Il a devant lui quand même Dembélé, Giroud, Mbappé. Ça change énormément de choses. Il peut venir se sacrifier au milieu.
Et d'ailleurs, aussi.
Il faudrait arrêter d'utiliser l'expression sacrifier. Il se sacrifie pas. Il joue simplement milieu. Et il est pas là pour se sacrifier. Il est là pour jouer, pour orienter et pour faire parler sa technique et sa justesse et son intelligence. Arrêtons avec les expressions qui sont hors de propos. Il se sacrifie pour personne. Il est là, il joue pour l'équipe. Et le changement, c'est en 2018, il y a lui plus Jérôme Mbappé. Là, il y a lui plus Dembélé, Jérôme Mbappé. Ça change tout. Effectivement, qu'il est obligé peut-être là de compenser dans le milieu de terrain et d'être un peu plus proche des deux autres. Mais honnêtement, dans ce mouvement permanent des Bleus et dans le fait aussi qu'il joue plus haut, parce qu'il joue pas bas comme en 2018, le bloc.
Ça donne
la prestation qu'on a vue aujourd'hui d'un Griezmann rayonnant.
Il a la carte chaude.
On entendait Dédé lui reprocher de venir chercher les ballons trop bas. Mais oui. Là où ça a beaucoup changé maintenant, c'est qu'il revient pratiquement à la même hauteur. Mais il y a une évolution de la part de Tchouaméni et de Rabiot, qui eux, bah justement, quand lui revient bas, tac, et tout de suite l'animation, elle est complètement différente. Et ça, on ne l'avait pas jusqu'à maintenant.
Étonnant sur cette carte chaude, Lionel, c'est que déjà c'est quoi, on voit qu'il joue. La heatmap, c'est-à-dire que tu vois où est-ce qu'il a évolué sur le terrain. Tu comprends le concept? Tu vois, un terrain vu du dessus, puis tu as une idée. Et ben en fait, il a joué un peu plus à gauche qu'à droite. Et surtout, il n'a touché qu'un seul ballon dans la surface.
Bah oui.
Bah c'est ça en fait le vrai changement.
C'est ça qui est notable. En fait, il s'arrête de toucher le ballon à grosso modo 20-25 mètres du but adverse.
Il est plus playmaker maintenant. C'est lui qui fait plus, qui construit, qui donne le tempo.
La différence, Lionel, c'est qu'en 2018, il était attendu sur le deuxième ballon derrière Giroud et qu'aujourd'hui, il est attendu sur le deuxième ballon de la défense. C'est lui qui doit organiser le jeu. Et c'est là, en fait, la différence.
Et ces ballons, finalement, il les joue dans une tranche de terrain qui va des 40 mètres de son but jusqu'à 20 mètres du but adverse. Voilà, c'est là qu'il touche principalement le ballon.
Et je crois que c'est Tony qui le disait tout à l'heure, c'est là où il a fait la différence, c'est sur son jeu en une touche de balle. Et c'est là où il a permis à l'équipe de France de se projeter très vite.
Mais c'est pour ça, parce que c'est ce qu'on appelle, enfin je sais pas, un peu playmaker, c'est le mec, c'est-à-dire qu'il a donné l'intensité du jeu, a donné l'orientation du jeu.
Le tempo, bien sûr.
Exactement, et ça avant, bon, il ne faisait pas, ou alors il ne donnait pas aussi, je pense qu'il a mûri, parfois aussi il ne donnait pas la bonne intensité au bon moment. Là, il est rayonnant, parce que, en tout cas dans ces deux premiers matchs-là, quand je le vois comme ça, il ne s'est jamais trompé dans l'intensité. Il a tout le temps, et dans l'orientation non plus. Et il est allé, je pense honnêtement, hein, Gilbert, je crois, si t'as la heat map, il a dû aller une fois sur le côté droit, c'est limite des 16 mètres quand il la donne à Mbappé deuxième poteau. Basta, le reste du temps, il était pas si loin, si éloigné que ça, sur le côté droit. Il était plus à gauche et dans le milieu.
Ouais, exactement. Oui, t'as raison. Là,
j'ai pas vu la heat map, mais j'en suis pratiquement persuadé.
Disons que sa carte chaude penche à gauche. Voilà.
Oui,
avec ton expression carte.
Tony, un truc à rajouter ?
Non, après, je suis vraiment très fier de la prestation collective. C'est bien aussi qu'on ait été mis un petit peu en difficulté pour trouver la faille. Je pense que pour continuer dans cette dynamique de groupe, c'est quelque chose qui va souder l'équipe. Et bien qu'on n'ait pas été très optimiste avant le début de cette Coupe du Monde, j'ai bien l'impression que ça peut être quand même une belle aventure. Donc vraiment très très fier des Bleus et on va être à fond pour suivre ça.
Ah oui, d'ailleurs, t'as une petite précision. La France a brisé une sorte de d'habitude qui voulait que les tenants du titre
démarrent mal.
Se fassent sortir à la Coupe du Monde d'après. Ouais. Bah, c'était le cas de l'Espagne, l'Allemagne.
Non, ça a commencé avec l'Italie 2006.
L'Italie
championne 2006 ne se qualifie pas.
Ce qui nous a sauvé, Gilbert, ce qui nous a sauvé, c'est peut-être de faire un très mauvais championnat d'Europe.
Ah, peut-être.
Juste non, derrière 2000, la Coupe 2002, du Monde, tu
2002,
vois.
Et c'est le Brésil. Le Brésil, en 2006, ils sortent de la
Coupe.
Non,
c'est 98-2002. La France qui gagne en 98, qui se loupe en
Oui, mais entre les deux, tu as le Brésil qui est championne en 2002, mais qui sort de la poule en 2006 quand même. Okay. Voilà.
Tony, merci beaucoup. Tony, est-ce que tu es abonné à la revue de l'After?
Pas encore, mais c'est dans mes projets à très court terme.
Ah, c'est un vrai projet. C'est un projet.
Je t'invite à aller sur afterfoot.media. Il y a une offre Coupe du Monde. Très sympa.
Je croyais que tu allais lui offrir.
Qui te fera faire quelques économies. Ça, c'était surtout pour placer l'offre Coupe du Monde sur afterfoot.media, à vrai dire.
Tu fais bien, Gilbert. Ne changez rien, en tout cas. Franchement, vous êtes fantastique.
Merci Tony. Beaucoup. Et le numéro actuel de la revue de l'After est en kiosque. Il parle beaucoup de la Coupe du Monde. Évidemment, et c'est aussi valable pendant la Coupe du Monde, parce que vous allez apprendre plein d'histoires. Plein
et profitez bien de cette offre, hein. Parce que le numéro 8, ça va être un sacré numéro.
Heure du lourd.
Ah oui.
Ah, il va y avoir du lourd. Là, exactement. Là, je pense que là.
Même peut-être d'ailleurs du Youssef Boussaïev dedans.
Pas possible.
On va y réfléchir. Un point rugby, Stade Français Toulon, Julien.
Toulon est repassé devant pour la première fois de cette rencontre. 17-9 pour les Toulonnais sur la pelouse du Stade Français. Deux essais marqués et un énorme, énorme temps fort. Là, on est à 9 minutes de la fin de cette rencontre et il pourrait faire la très belle opération en s'imposant sur la pelouse du Stade Français. Il mène donc sur le score de 17-9 à 9 minutes de la fin de cette rencontre.
Donc il y a d'autres sports pendant la Coupe du Monde alors.
Bah, je
continue
pas.
De se passer des choses en fait.
C'est bizarre,
parce que nous, on est ici,
y a même
on est
le foot
coupé,
qui continue. Hein.
Ah ouais, mais je savais pas. Pourquoi il y a quoi comme foot qui continue?
C'est amateur, tout ça, Coupe de France. Tout ça, ça c'est.
Certes, ok.
Il y a le biathlon qui reprend mardi, Daniel.
Mon foot, quoi.
Ah, le biathlon, magnifique.
Voyons. La Coupe du Monde reprend mardi.
C'est mardi.
C'est
tout
arrêté, moi.
Mardi.
Dorothée Avireur, toujours là?
Toujours là, Gilbert.
Magnifique. Dorothée Avireur.
Avec Jean Thomas, sache qu'on est des grands fans de biathlon et qu'on regarde après toutes
C'est vrai que je te vois regarder sur ton iPad à chaque fois.
Biathlon, c'est génial. Il n'y a pas de Qatari au biathlon, hein, pas encore.
Ah, je pense pas. Peut-être que ça va être compliqué.
Ils
sont capables de
tout. Pourquoi pas, hein. Bah oui. Allez, dans quelques instants, on est de retour pour continuer le débat autour de l'équipe de France avec Francky qui est avec nous, qui veut parler du système mis en place par Didier Deschamps. Et puis on aura avec nous à partir de 23h des supporters ici à Doha. Et puis on parlera aussi des autres matchs de la soirée, de la journée, pardon. On parlera de la Tunisie qui a galéré face à l'Australie. On parlera de la Pologne et de Lewandowski qui a marqué. Et puis on reviendra sur l'Argentine qui donc a battu le Mexique ce soir. 2-0. À tout de suite dans l'After. After également sur TikTok avec Oussem Moussaïef et sur Twitch. À tout de suite.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.